Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
A complaint has been registered by a resident of this island about a missing child.
Where is Rowan Morrison?
It was upon a Lammas night when corn rigs are bonny. Beneath the moon's unclouded light, I held a while to Annie. The time went by with careless heed, till tween the late and early. With small persuasion, she agreed to see me through the barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among the rigs with Annie.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale paganisme durant laquelle nous évoquerons l'auteur anglais Andrew Michael Hurley. Nous tenterons également de faire le point sur le mythique The Wicker Man de Robin Hardy, sorti en 1974. Nous reviendrons sur ses différents montages, disponibles en France via deux éditions complémentaires. Nous reviendrons également sur le remake de 2006, signé Neil LaBute, avec Nicolas Cage. Alors tout ça, c'est sorti chez Studio Canal. On parlera également de la suite de The Wicker Man, à savoir The Wicker Tree, que Robin Hardy tourne en 2011. Et ça, c'est disponible en import chez Unshore Bay. Et enfin, on parlera de Midsommar, un film phénomène de 2019, signé Ari Aster et paru chez Metropolitan Video.
Pour causer paganisme, je suis aujourd'hui accompagné des chroniqueurs les plus païens des ondes hexagonales. À savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Gégé et bien évidemment salut à toutes.
Avant de parler Cinoche, nous allons évoquer le paganisme en littérature. Alors je rappelle que le paganisme désigne la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Alors ça c'est une vision rapide parce que notre ami Thomas il va développer un peu tout ça. Et puis notre ami Thomas il est venu avec les ouvrages d'un auteur anglais qui s'appelle Andrew Michael Hurley. Alors, je vais tout de suite lui passer la parole parce que l'ami Thomas, je n'ai pas envie qu'il me sacrifie lors d'un rite païen, donc je vais être très gentil avec lui.
Bon, le paganisme, selon l'encyclopédie des religions, définit au sens propre les païens. Les païens, ce sont le mot païen qui vient du mot latin pagani, hein, et qui désigne les gens des campagnes. Voilà. Et qui, à l'époque de la christianisation de l'Empire romain, restèrent longtemps fidèles au polythéisme antique. C'est donc dans le cadre du christianisme que leurs croyances, puis par extension toutes celles qui ne sont pas d'origine judéo-chrétienne, ont pu être qualifiées de païennes par les missionnaires ou les théologiens. Voilà, voilà ce que regroupe ce mot paganisme. Et cette définition s'accorde tout à fait au roman de Andrew Michael Hurley, qui est un écrivain anglais qui vit dans le Lancashire, où il enseigne la littérature anglaise et l'écriture créative. Et les écrits de Andrew Michael Hurley décrivent des modes de vie et de pensée qui s'inscrivent tout à fait dans cette définition du paganisme. J'ai découvert en 2017 cet auteur à l'occasion de la parution de son premier roman, Les Morzo, aux éditions J'ai lu, qui raconte le périple d'une famille, les Smiths, une famille très pieuse qui part en pèlerinage dans un petit village au bord de mer. Ils espèrent pouvoir guérir leur fils aîné qui est déficient mental. Seulement, une fois là-bas, ils découvrent un autre monde dans lequel ils ne semblent pas forcément les bienvenus. Le prêtre qui les accueille est ambigu et ils se rendent compte que les habitants se livrent à des rituels païens. Pour moi, Andrew Michael Hurley, ça a été une véritable découverte. Et Les Morzo, un des meilleurs romans fantastiques que j'ai pu lire ces dernières années. L'écrivain ne fait pas dans l'esbrouf, son fantastique est diffus, avec beaucoup de choses qui restent dans l'ombre. Les éléments fantastiques restent hors champ, à peine visibles. Tout est dans la suggestion, dans les non-dits. Il n'y a pas de monstres, pas de sortilèges, juste des rituels à peine entrevus. Andrew Michael Hurley préfère s'attacher à créer une atmosphère, rester à la lisière du fantastique pour faire naître l'angoisse et le malaise. Alors bien évidemment, quand j'ai vu son deuxième roman, Le Jour du Diable, toujours publié chez J'ai lu, je n'ai pas hésité, hein, je l'ai acheté tout de suite. L'auteur reste fidèle à sa marque de fabrique. Le Jour du Diable se déroule dans un environnement similaire, l'Angleterre profonde, où les superstitions et les légendes animent encore les conversations et font l'objet de rituels annuels. Alors, nous sommes dans les Highlands, et on dit que le diable se promène dans la lande, s'en prend aux moutons, aux femmes enceintes, aux nourrissons. John Pentecost avait quitté son lieu de naissance pour enseigner à Londres. Seulement, il décide de revenir dans les Highlands, rejoindre ses proches et s'occuper de la ferme, des moutons et perpétuer le jour du diable, le jour où l'on fait redescendre les moutons de la lande afin que le diable ne les attrape pas. Avec son épouse enceinte, il va redécouvrir un lieu, des habitants qu'il avait laissés derrière lui depuis longtemps et depuis, bien des choses se sont passées. Encore une fois, le paganisme se trouve au centre de l'intrigue et Andrew Michael Hurley se plaît à décrire les mœurs et coutumes des habitants de cette contrée reculée, les inimitiés, les secrets de famille. Il raconte à quel point les habitants restent attachés à cette région reculée et son style élégant accentue cette impression de carrément y s'y trouver. Par petites touches, il décrit des événements bizarres, des détails qui font que les choses ne sont pas tout à fait normales dans les Highlands et que peut-être bien, le diable s'y promène toujours, sautant de mouton à mouton ou de personne à personne. Cette fois, l'auteur adopte une narration plus complexe, avec de nombreux flashbacks distillés au fil du récit. Il décrit avec précision les préparatifs de ce rituel pour éloigner le mauvais sort. Et encore une fois, le fantastique apparaît de façon insidieuse pour dire que le diable est partout, qu'il représente la peur, les ressentiments, la violence quotidienne, les accidents, les coups du sort. L'auteur laisse aussi volontiers certaines choses dans l'ombre, comme dans Les Morzo. Le paganisme se trouve donc au centre de ces deux romans. S'il entre en confrontation avec la religion chrétienne dans Les Morzo, il entre en opposition avec un mode de vie plus moderne dans Le Jour du Diable. Cependant, dans les deux romans, Andrew Michael Hurley décrit des traditions et des croyances qui régissent encore le quotidien de ses habitants. En conclusion, je recommande vivement ces deux romans d'Andrew Michael Hurley, mais surtout Les Morzo qui m'avaient fait forte impression. Si vous aimez un fantastique plus suggéré que spectaculaire ou sensationnel.
Sensationnel, voilà un mot qui peut être accolé, qui peut qualifier le film de Robin Hardy sorti en 1974, The Wicker Man. The Wicker Man qui est véritablement un film culte, film longtemps réputé maudit, et que je pense on est très nombreux à avoir découvert lors d'une diffusion sur Canal+, lors d'une séance animée par l'ami Jean-Pierre Dionnet. Et ça, pour nous toutes et tous, c'était une découverte incroyable que ce film qui raconte, en gros, l'histoire d'un policier anglais qui se retrouve sur une petite île écossaise pour enquêter sur la disparition d'une enfant et qui mène son enquête et qui est bien décidé à retrouver cet enfant et qui se heurte à une population un peu étrange. On fait l'amour dans la rue comme ça en pleine nuit, il n'y a aucune croix, il n'y a pas de référence à la religion catholique dans les cimetières, la chrétienté semble complètement absente. Voilà, ce flic puceau est très très pieux, est un peu désarçonné par ce monde où on apprend aux enfants ce que sont les symboles phalliques, des choses comme ça à l'école. Il est vraiment désarçonné et il est à la recherche de cette fille et puis il finit par rencontrer le gourou de cette île, Lord Summerisle, qui est campé par Christopher Lee, qui croyait beaucoup au film, hein, puisque c'est lui qui va porter très longtemps l'adaptation de ce film et l'adaptation du livre qui s'appelle l'adaptation du roman donc de David Piner, Ritual. Ritual, qui a d'ailleurs failli être adapté au départ par Michael Winner, pour l'anecdote. Moi, je suis assez curieux de voir ce qu'en aurait fait Michael Winner, mais bon, enfin, quoi qu'il en soit. Il rencontre ce Lord Summerisle qui dirige un peu cette île et qui lui explique qu'en fait il est le descendant d'un scientifique, voilà, de quelqu'un qui avait trouvé une méthode en fait pour faire pousser des fruits sur ce coin de terre un peu paumé, quoi, voilà. Et donc il explique que tous les ans il y a une cérémonie autour de la récolte à venir, tout ça, enfin voilà. Et lui est un peu perdu dans ce monde qu'il ne comprend pas. Il est complètement perdu, même, voilà, il est complètement en errance dans ce monde. Et en fait, ce qu'on va découvrir, nous, les spectateurs, c'est que lui, il n'est peut-être pas là par hasard. Voilà. Et il a peut-être été choisi, en fin de compte. Alors évidemment, je suppose que si vous écoutez cette émission, vous avez tous déjà vu ce film. Alors ce film qui est resté le film préféré de Christopher Lee jusqu'à sa mort. Hein. C'est un film qu'il adorait. Vous écoutez Culture Prohibée. Ce film qui est une sorte de miracle cinématographique, qui a connu aussi plusieurs montages, plusieurs versions, mais ça, on va en parler, et qui est une sorte de miracle parce que ce n'est pas un grand metteur en scène, Robin Hardy. Il vient du documentaire, il a une boîte de production de documentaires, il filme des spectacles, il filme du théâtre surtout, avec Anthony Schaeffer, le scénariste, qui lui va signer un scénario incroyable. Et le film s'appuie aussi sur une bande-son, des chansons aussi qui vont rythmer le film et qui aident à la compréhension du film. Et ça donne un film vraiment unique sur le paganisme, un film vraiment unique sur la foi, un film assez extraordinaire, un film dont on ne se lasse pas. C'est un film qui est fascinant, en fait. Malgré que la mise en scène ne soit pas forcément extraordinaire, tout ça, le film reste fascinant de bout en bout. Moi, je l'ai vu peut-être une bonne dizaine de fois, ce film. Et il continue à me fasciner. Et je vais laisser un peu Thomas nous en parler, d'autant plus que Thomas a plein de choses à nous dire, y compris sur les différents montages du film, tout ça, parce qu'effectivement, il y a plusieurs versions du film. Et récemment, Jean-Baptiste Thoret, dans sa collection Make My Day, a sorti un combo Blu-ray DVD qui vient en complément de la précédente édition qui était parue dans la collection Cinéma de Quartier chez Canal+ Vidéo. dans lequel il y avait le montage à l'époque diffusé dans Cinéma de quartier. Et là, on a deux autres montages donc, qui sont présents dans cette édition éditée par Jean-Baptiste Auré dans la collection Make My Day, et dont le Final Cut, qui est comment dire, le montage le plus percutant, le plus réussi, je trouve. Enfin, en tout cas, un film qui a généré un véritable culte et qui continue d'alimenter un culte aujourd'hui, ce qui est quand même, comment dire, normal, puisque c'est un film qui tourne autour d'un rite païen.
En fait, l'édition Cinéma de quartier propose deux montages, le montage sale et le director's cut. Bon, moi, je trouvais que le montage sale était plus intéressant que le director's cut. Et là, ce que beaucoup reprochent à Jean-Baptiste Torres, c'est de ne proposer que le montage sale sur le DVD et le final cut sur le Blu-ray. Dans l'édition Make My Day. Bon, moi, je trouve que le final cut, c'est le meilleur montage des trois. C'est effectivement un film assez curieux parce qu'on le range dans film fantastique, film d'horreur, alors qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de violence, et il n'y a pas non plus d'éléments surnaturels. Tout se fait autour de cette île mystérieuse, de ces gens qui effectivement ont des mœurs. Ce n'est ni plus ni moins que des babas cool, quoi. C'est, voilà, ils pratiquent l'amour libre, il y a des rituels, effectivement, on pense d'initiation via Britekland, hein. Je pense que beaucoup auraient aimé être initiés par Britekland, hein, dans leur jeunesse, hein. Comme dans le film. Mais c'est un film effectivement assez étrange où la musique, elle se fait dans le film. Je veux dire, elle est intradiégétique. Les gens, ils chantent dans le film. Je ne crois pas qu'il y ait de musique extradiégétique dans le film. Je n'ai pas souvenir de ça.
Je pense que si, parce qu'au début du film, par exemple, quand il arrive en avion, t'as déjà de la musique. Et c'est vrai que t'as beaucoup de passages où justement il chante et tout, mais t'as aussi de la musique. Mmh.
Il est aussi assez surprenant de voir que Christopher Lee, c'était son film préféré, parce que j'ai cru comprendre que Christopher Lee, c'était quand même quelqu'un d'assez conservateur. Le fait que son film préféré soit quand même un film qui met en avant des babas cool, qui ont plutôt des mœurs... on va dire, plutôt libre, plutôt anarchiste. Moi, ça m'étonne un petit peu quand même. Hein. Après, je ne connaissais pas forcément Christopher Lee personnellement, mais j'avais lu des interviews où il se montrait quand même plutôt assez conservateur. Et le fait qu'il préfère ce film m'étonne beaucoup quand même.
Là, c'est de notoriété publique. Hein. C'est un projet qu'il a porté, qu'il a monté lui-même. Il considère que c'est son meilleur rôle à l'écran. Enfin, il adore ce film, quoi. Voilà, et... Après, c'est un film étrange. Enfin, Damien, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus. C'est vrai que c'est un film qui est porté par une sorte de... C'est presque un petit miracle cinématographique, quoi. C'est un film, à chaque fois qu'on le voit, on reste accroché au film. On est obligé de le voir jusqu'au bout, quoi. C'est un film fascinant, en fait.
The Wicker Man est un film à voir deux fois, en fait. La première fois, on le découvre, et la deuxième fois, on comprend différents éléments, ce qui se met en place à travers l'intrigue pour arriver jusqu'à la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont décrits comme païens et il y a une abondance de sexualité, ce qui en fait permet aux policiers de les définir rapidement en tant que païens. Et c'est vraiment sa vision à lui qui s'impose sur l'horreur de leurs actions. Je ne dis pas que l'horreur de leurs actions est justifiée, je dis que c'est intéressant d'avoir un policier qui est vraiment très catholique, qui les juge, sachant qu'on voit à la fin qu'il fait d'une certaine façon autant preuve de fanatisme... que dans sa volonté d'être sauvé. Le final cut est excellent. Il change très peu de choses au film original, mais il a quelque chose vraiment d'organique, quelque chose qui se lie vraiment au film, comme s'il respirait tous les deux d'une seule et même voix.
Ce qui est vraiment important dans ce final cut, c'est la place. Alors, il y a des scènes en plus, on les reconnaît de toute façon, parce qu'au niveau du grain de l'image... Les scènes sont de moins bonne qualité, elles ont été retrouvées, restaurées comme on a pu, mais enfin bon, c'est pas... On voit la différence, on reconnaît les scènes. Mais surtout, il y a le positionnement d'une scène qui est primordiale dans le final cut, qui n'est pas du tout le même que dans le montage original. C'est-à-dire, c'est la scène où Brit Ekland, totalement nu, pendant qu'on chante une chanson dans le bar qui est en dessous, parce qu'ils sont au-dessus d'une taverne, en fait, et elle travaille dans la taverne familiale, et elle habite à côté de là où le policier loue une chambre. Hein. Ce policier pieux, ce policier conservateur, hein, voilà. Et d'ailleurs, il a des répliques assez, assez génial, quoi. Enfin, voilà, où en gros, il explique que bientôt, si t'es pas catholique, si t'es pas chrétien, t'es pas anglais, quoi. Parce que c'est voilà. Et à un moment, il dit je représente l'Angleterre, je représente la loi. Enfin, je sais plus exactement comment il le dit, mais en gros, il dit aussi je représente l'Église, quoi. C'est-à-dire que l'Angleterre, l'Église, tout ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les Anglais, hein. Visiblement, le poids de l'Église est quelque chose qui est souvent reproché. Je parlais tout à l'heure de Michael Winner, par exemple, c'est une des thématiques de son cinéma. Il y a un truc, hein, il y a un truc. Et il y a cette scène où, en fait, elle fait, du coup, pendant la chanson, elle fait une danse sensuelle, elle est totalement nue. Je mets au défi quiconque de résister au charme fou de la belle Brit Ekland dans cette scène. Et ça donne une scène particulière parce qu'elle rythme la chanson. En tapant contre le mur, en tapant sur ses mains, en tapant sur des éléments de mobilier, elle rythme la chanson qui devient comme le rythme d'un acte sexuel, et elle donne un tempo d'acte sexuel qui va crescendo. Et puis de l'autre côté, il y a ce flic, il a envie d'y aller, à un moment il a même la tentation d'ouvrir la porte et il se ravise. Et cette scène là dans le montage initial, elle vient tout de suite, c'est sa première nuit qui passe sur l'île. Mais dans le montage, dans le final cut, elle vient beaucoup plus tard, en fait. Là, il a déjà découvert les mœurs de l'île, il s'est déjà frotté à Lord Summerisle et tout ça. Il est en connaissance de cause. Et donc, en fait, elle est plus logique. Parce que lui, il est entouré de stupre et de luxure pour lui. Tout ça, c'est de la débauche, quoi. Voilà, tout ça, c'est malsain pour lui. Donc, il est entouré de tout ça. Et il est tout prêt de craquer, parce qu'il se conce... Il va se marier. Il a pas encore, il s'est pas encore marié, en fait. On sait qu'il va se marier parce qu'avec le prologue et tout, on sait qu'il va finir par se marier. Mais il est puceau, donc, parce que lui, il a prévu de se réserver pour le mariage. Et en fait, cet idiot, il se condamne parce que si jamais il était allé coucher avec Brit Ekland, il se sauvait la vie, en fait. Voilà. Mais il n'y va pas. Il n'y va pas de manière inexplicable, mais il n'y va pas en tout cas, et il résiste à cause du poids de l'Église qui pèse sur ses épaules, de son éducation, de son rigorisme, voilà, il n'y va pas. En plus, cet acteur, Edward Woodward, là, qui est surtout célèbre pour une série Equalizer, hein, qui n'est pas au cinéma, qui n'a pas eu une grande carrière au cinéma, il est très bon parce qu'il le porte sur lui, même dans son physique, dans son visage. On a l'impression qu'il est sans cesse en lutte contre lui-même, contre ses désirs, contre ses pulsions, contre ses envies. Et d'ailleurs, c'est assez génial, dans le final... On l'entend seulement, et là, il se lâche, mais c'est trop tard. Mais il se lâche, mais c'est extra. Enfin, j'adore ce moment, en fait, où il se lâche complètement, et là où il oublie toutes les conventions et tout le poids de son éducation. Et effectivement, le final cut, du coup, est vachement plus intéressant, parce que ça suit un cheminement plus logique. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale paganisme. Et le côté organique dont tu parles, alors je pense, moi, il vient en fait que le film a. Il y a des effets de style, hein. Par exemple, le premier soir, il est là, il voit des gens qui font l'amour la nuit, il y a des ralentis, il y a quand même des effets de style. La scène de la danse, dont on parlait à l'instant, c'est de la mise en scène quand même. Hein. C'est monté, ça suit le rythme de la chanson, tout ça. Il y a un bon découpage et tout ça. Bon. Mais Je pense que ce qui donne cet aspect particulier au film, c'est que la plupart du temps, il a un côté assez naturaliste, presque comme lui, il vient du documentaire, il y a un côté très documentaire en fait. Hein, voilà. Et la première fois qu'on voit le film, on est en Nîmes. Puis plus on le découvre, après on connaît ce monde, on connaît tout ça. Et on découvre toujours des choses nouvelles dans ce film. Par exemple, même le fait de garder le cordon ombilical pour le mettre à la tombe des gens qui meurent. Il y a plein de choses comme ça. Le fait de soigner en mettant une grenouille dans la bouche. Il y a plein de détails. Le lièvre de Mars aussi, comment il est utilisé. Les références à Alice au Pays des Merveilles. Enfin, il y a plein de choses dans le film qu'on remarque au bout de plusieurs visions. En fait, je pense, moi, surtout que si le film est aussi extraordinaire, c'est que le boulot du scénariste est extraordinaire. Je pense que le scénario est imparable, en fait. C'est un super scénario d'Anthony Schaeffer. Et c'est quand même pas n'importe quel scénariste, Thomas, Anthony Schaeffer.
Non, c'est le scénariste du Limier, entre autres, de Joseph Mankiewicz, avec Michael Caine. L'étrangeté du film, hein, bon, on va simplifier, on va dire que c'est un film fantastique. Hein. L'étrangeté du film vient aussi du fait qu'il se passe de jour, essentiellement, quasiment très peu de scènes de nuit. Mais c'est surtout c'est que les habitants, ils ont tous des gueules. À part Brit Ekland et puis Ingrid Pitt, hein, qui joue une bibliothécaire qu'on aurait aimé voir plus souvent dans notre jeunesse, hein, qui nous aurait conseillé des bons livres. Mais tous les habitants, ils ont des gueules. Ils ont vraiment quelque chose et ça crée un sentiment vraiment d'étrangeté. Et aussi, comment il utilise les décors, effectivement de façon naturaliste, mais ces petites maisons, ces petits murets en pierre, il y a vraiment quelque chose. Puis on a vraiment l'impression... En fait, ça donne un sentiment très, très similaire au fameux village de Port-Marion dans Le Prisonnier, quoi. On a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. D'ailleurs, il ne peut pas en sortir, de toute façon.
Il est sur un territoire sur lequel la loi s'applique et en fait, il se retrouve dans un endroit qui est censé ressembler à qui est censé ressembler à l'Angleterre, là où il vit, et il se retrouve dans un endroit qui certes ressemble, mais qui, à travers toutes les coutumes, a ce petit décalage qui crée l'horreur qui monte petit à petit. Il y a aussi un truc très intéressant qui est introduit au moment où il fait des recherches sur tout le culte qui va avoir lieu, c'est qu'on explique que pour accomplir le culte, il y a trois façons qu'il prenne fin. Du coup, il y a trois façons dont quelqu'un peut être sacrifié et je trouve que c'est une excellente idée parce que ça joue sur la façon dont l'histoire peut potentiellement se finir.
Je rejoins tout ce que vous dites et Thomas a raison. Il y a un casting aussi qui est très réussi. Hein. Il y a un vrai casting de trogne qui est vraiment très réussi. Dès le début, quand il arrive sur l'île dans son petit avion et que les mecs ne veulent pas venir le récupérer avec leur barque, et il y a toute leur tronche là en gros plan, tu te dis putain il a été ramassé tous les pochetrons qu'il a pu trouver dans les bistrots, il les a mis là, les mecs il leur manque des dents, ils sont rougeaux, ils ont des nez énormes, ils ont tous des têtes pas possibles quoi, et effectivement c'est assez particulier, et puis surtout ces habitants ils font tous des trucs qui nous paraissent un peu bizarres, étranges. Et comme Damien l'a dit, effectivement, on est dans un autre monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... En gros, à chaque fois qu'il demande quelque chose, ce flic, on lui dit « Non, mais si Lord Summerall, il ne veut pas, vous ne l'aurez pas. » Voilà, c'est comme ça. Alors, vous l'avez compris, grand film. Alors, nous, on vous conseille... on vous conseille absolument de voir ce film, plutôt le Final Cut. Il y a l'édition Make My Day, il y a une édition anglaise aussi qui est très bien parce qu'il y a la BO dedans aussi et qui réunit tous les montages et qui est sortie chez Studio Canal aussi. Également édité par Studio Canal, on va peut-être aller un peu plus vite sur ce film pour nous intéresser après à la suite de The Wicker Man, à savoir The Wicker Tree, toujours réalisé par Robin Hardy, et puis surtout au lien qu'elle entretient avec le film d'Ari Aster, Midsommar quand même, ça, c'est très intéressant. Mais on va faire un petit détour en 2006... pour un film signé Neil Labute qui est une sorte de relecture de The Wicker Man avec Nicolas Cage et qui est quand même un drôle de film.
Un drôle de film parce que Nicolas Cage est en roue libre, ou presque. Hein. Déjà, rien que pour ça, ça vaut son déplacement. C'est aussi un film qui propose une relecture intéressante parce que cette fameuse île de Summer Isle, c'est une société matriarcale, célèbre aussi pour un, pour avoir joué dans L'Exorciste, le grand film d'horreur. Et bon, parce que le remake, il n'est pas excellent, c'est un peu plan-plan, c'est pas génial. L'autre truc, c'est que ce personnage du flic, qui cette fois donc est incarné par Nicolas Cage en roue libre, c'est que lui, il est sympa par rapport à l'autre. Il est plus sympa que l'autre, il a bon cœur, on le voit dans le prologue du film. Il est plutôt sympa avec les gens qui l'arrêtent pour leur dire faites attention en roulant, etc. etc. Enfin bref, c'est un brave type, quoi. Contrairement à l'autre qui est quand même un petit peu obtus et qui n'admet pas d'autres discours que le sien, alors que les autres dans le film de Robin Hardy admettent le fait qu'ils peuvent se tromper. Mmh. Et par rapport à tout ça, le film de Neil Labute, c'est ça, est très différent. Et bon, c'est un petit film qu'on regarde le soir avec des potes, avec des pizzas et de la bière, quoi.
Je suis absolument d'accord avec toi, Thomas. On le définit souvent comme remake, alors qu'en soi, c'est vraiment une adaptation américaine. Vraiment une adaptation américaine en soi. Il y a beaucoup de parallèles, du coup, avec Zoe Kerman anglaise. Et en fait, les modifications qu'ils font dans l'histoire sont au final assez minimes parce qu'ils suivent quasiment exactement le même schéma. Et c'est vrai que Nicolas Cage est plus traité en policier héros, il y va pour sauver une enfant et tout, et il n'a pas tout le poids de la religion. C'est un personnage assez lisse qui se retrouve finalement dans cet enfer. Et il y a au final l'absence de la confrontation de deux vraies idéologies comme on pouvait avoir dans l'original anglais.
Même si on veut être méchant, on peut même voir une critique d'une société matriarcale, la façon dont lui est dépeint, qui est quand même un brave type, bon, un brave type un petit peu obtus quand même, hein, mais c'est quand même un brave type, et de la façon dont sont dépeints les femmes de qui forment cette société matriarcale, je veux dire, elles sont pas sympathiques, contrairement à la société qu'a monté Lord Summerisle dans le film original. Donc, quelque part, le film peut être interprété de cette façon, comme une critique d'une société matriarcale. Alors que c'est une bonne idée, en fait, de proposer une société patriarcale en contrepoint du film original. Et surtout, moi, il y a des choses qui me dérangent. Par exemple, l'aviateur qui approvisionne l'île, qui au départ refuse de le transporter parce que c'est une île privée, il n'a pas le droit, etc., etc. Et à un moment dans le film, on le retrouve assassiné, les yeux crevés, la bouche cousue. Je trouve que là, le film d'horreur un peu commun, un peu bêta, je trouve que c'est inutile de faire ça. Alors que c'est quand même le mec qui les approvisionne, en qui ils ont confiance. Même s'il a ramené quelqu'un, je veux dire, il a ramené quelqu'un sous leurs ordres à elle. Et je trouve ce passage idiot, inutile et complètement gratuit, en fait.
Pour rester dans le domaine des films pas terribles, terribles, il y a la suite de The Wicker Man, qui est vraiment signée de Robin Hardy, encore avec Christopher Lee, qui apparaît 1 minute 30 à l'écran, histoire de justifier le fait que c'est une suite officielle, quoi, voilà. Et The Wicker Tree, d'ailleurs, l'arbre est très beau,
C'est un des beaux trucs du film, c'est l'arbre. The Wicker Tree, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire d'un couple de born again, de deux born again, un homme et une femme. Alors, qu'est-ce que c'est que les born again? Alors là, ils sont texans, je crois. Hein. C'est deux born again. Alors, ce sont des... Comment dire? Sont des chrétiens évangéliques, en fait. Et c'est des individus qui affirment avoir vécu une régénération spirituelle par le Saint-Esprit après repentance de leurs péchés. Et donc, ils se sont réconciliés avec Dieu. Donc, ils sont des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, ils décident d'aller prêcher dans notre communauté de politique, d'aller prêcher la bonne parole pour essayer de leur faire changer d'avis, quoi. Et bon, une communauté polythéiste qui aussi, où en fait l'infertilité règne en maître aussi. Ça, c'est un des éléments importants de l'histoire. Alors, The Wicker Tree, c'est un film un peu embêtant, je veux dire, embêtant parce que, bon, on sent bien que Robin Hardy, il s'applique, hein, il n'a pas beaucoup de moyens. Les acteurs, des cadres propres, d'avoir une photo propre et tout ça, mais cette image au grain de vidéo, là, c'est quand même, ça fait mal aux yeux quand même. Hein. Et puis, bon, les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas extraordinaires non plus, c'est assez inégal. Ce n'est pas inintéressant, hein, comme postulat de départ. Le problème, c'est que le traitement n'est pas à la hauteur, qu'on a l'impression que tout ça s'est raccroché un peu péniblement à The Wicker Man avec cette apparition de Christopher Lee qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Là. Et moi, je trouve The Wicker Tree intéressant surtout pour une chose, c'est pour les liens qu'il entretient avec un film qui a fait le buzz, comme on dit, le deuxième film de Ari Aster, Midsommar, où on a quand même beaucoup de points communs entre les deux films. N'est-ce pas, Thomas?
Ah oui. Bon, moi, j'aime pas trop Midsommar, hein. J'aime pas trop les films d'Ari Aster. Hein. Je trouve que c'est du cinéma figé, j'appelle ça du cinéma figé, c'est-à-dire du cinéma poseur, prétentieux. Et même si je n'aime pas trop The Wicker Tree, bon, qui n'est pas un film antipathique, hein, c'est pas le problème, mais je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture, je vois pas ce que le film me raconte. Je trouve que le couple d'Américains, c'est une caricature, enfin bref. Mais effectivement, on voit beaucoup de points communs. Enfin, moi, j'en vois beaucoup, notamment le fait que ce sont des Américains qui se rendent dans une contrée étrangère, dans Midsommar, comme dans The Wicker Tree, qui sont manipulés par une communauté. Il y a le fait que le mâle alpha états-unien, en gros, une des autochtones qui l'a manipulé, comme dans Wicker Tree et dans Midsommar. Il y a l'héroïne qui est couronnée d'une manière ou d'une autre dans les deux films. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que Ari Aster s'est dit, personne n'a vu The Wicker Tree et je vais écrire un scénario à partir de ça, quoi. La différence... Je suis méchant, hein, mais bon.
Non, parce que la différence, bon, entre les deux films, c'est qu'il y a quand même, bon, moi, tu sais que j'ai beaucoup de réserves sur Ari Aster. Hein. Si on veut reparler de son premier film, Hérédité. Je trouve que jusqu'à la scène de l'accident de voiture, c'est extraordinaire. Et puis après, le film me perd parce que j'ai vu les mêmes choses traitées beaucoup mieux, par exemple, chez Polanski. Même si je déteste pas le film, hein, mais bon, voilà. Et Midsommar, effectivement, on a un peu l'impression qu'il a vu The Wicker Tree, quoi. Enfin, voilà, ça me paraît assez évident. Et qu'il s'est dit que c'était un mauvais film et que lui, il allait en tirer quelque chose de mieux parce qu'il a quand même plus de talent, il faut dire les choses quand même. Ça, c'est clair. C'est un metteur en scène qu'on a sous la semelle, malgré effectivement qu'il soit poseur, sursignifiant. Enfin, ça, on y reviendra certainement dans le débat. Mais c'est vrai que. Alors, dans Midsommar, ce sont des étudiants américains dont l'héroïne Florence Pugh a perdu en fait ses parents parce qu'elle avait une sœur suicidaire. D'ailleurs, la scène est assez marquante. Le suicide est assez improbable, mais esthétiquement, ça donne une scène assez marquante, voilà, qui passe par un échange de mails au début du film, et puis la sœur qui répond plus, et puis par le biais de la mise en scène, parce qu'il y a de la mise en scène quand même, hein, il y a un raccord qui se fait, et on voit qu'il y a un tuyau qui est relié au pot d'échappement de la voiture qui monte l'étage, comme ça, donc la caméra suit, qui arrive dans la bouche de la frangine qui s'est collée, tout ça, tout le monde est mort là-dedans, les parents, tout ça, enfin c'est vachement glauque en fait, cette scène, elle est vachement glauque, et dans des scènes oniriques d'ailleurs, elle revient, ce personnage revient et tout ça. Et cette jeune femme donc, vit un truc d'enfer, quoi, assez horrible. Et son petit copain, avec une bande de potes à lui, décide de suivre un des autres étudiants, qui en fait vient d'une communauté suédoise, une petite communauté. Et ils se rendent donc dans cette communauté et ils sont invités à faire une fête qui a lieu tous les 90 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, ils vont participer à cette fête. Et évidemment, ça va... Cette communauté qui semblait être une sorte de paradis de Havre sur Terre va devenir un enfer, une prison pour eux, quoi. Voilà. Et ça va donner ce film assez étrange qui, effectivement, entretient beaucoup de points communs avec The Wicker Tree, mais qui a aussi une dose de second degré et tout, bon, assez assumé. Je pense à cette scène, par exemple. Tu parlais tout à l'heure de musique de l'intradiégétique, de l'extradiégétique, qui s'amuse avec ça. Ari Aster, quand ils arrivent dans la communauté en Suède et qu'on entend de la musique à la flûte comme ça, et tout à coup on voit arriver dans le champ des personnages qui jouent de la flûte. Bon, ça me fait marrer, quoi. Voilà, il y a des moments où il y a de l'humour, il y a des moments où il y a même de l'humour assez potache, hein, comme qu'à un moment il y a un personnage qui urine là où il faut pas uriner. Bon, ça prend des proportions incroyables alors que c'est complètement idiot en fait. En fait, c'est quand même une vanne d'ado, quoi. Tout simplement, et ça vole pas plus haut que ça. Mais il y a des choses intéressantes dans le film d'Ari Aster, dans sa manière d'aborder le paganisme. Moi, j'ai un reproche vraiment à lui faire, c'est que c'est un film où tout est sursignifié. C'est-à-dire que quand ils arrivent en Suède, il y a un plan, la caméra passe à travers le hublot de l'avion. Là, donc, c'est la traversée du miroir. Mais au cas où on n'a pas compris, en fait, le réalisateur, dès le plan suivant, nous fait voir les étudiants en voiture qui se dirigent vers la communauté et il retourne l'écran, il retourne l'image, il retourne la caméra. Ah oui, ça donne un plan qui est assez joli, mais c'est totalement gratuit en fait. Et en fait, ça nous dit juste, ben là, ils sont passés de l'autre côté du miroir, voilà, ils basculent dans autre chose. Ouais, mais on avait déjà compris avec le plan d'avant. Enfin, pourquoi tu me remets ça, le plan d'après, quoi ? Et après, il a des obsessions, comme plein de metteurs en scène, sur la symétrie dans les plans, tout ça. Enfin, c'est des choses... Voilà, il y a des moments où on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Puis moi, ce qui m'embête avec le film, alors beaucoup de défenseurs du film me disent que c'est volontaire, c'est que c'est un film où on sait ce qui va se passer tout le temps. C'est-à-dire que tout nous est annoncé à l'avance. Et bon, les défenseurs du film disent que c'est volontaire. Disent qu'en fait, Ari Aster, c'est une manière de déconstruire. C'est-à-dire qu'on sait tout ce qui va arriver dans le film, mais on regarde quand même. Bon, moi, j'ai vu la version de 2h30. Bon, je trouvais ça long quand même, hein, parce que quand on devine tout ce qui va arriver, il y a beau avoir des belles images, je trouvais que c'était un peu vain, quoi. Voilà, par moment. Et du coup, je suis resté sur ma faim, même si le film n'est pas sans qualité. Mais c'est vraiment un réalisateur, moi, qui me dit, Vizin, j'ai vraiment. Je pense que le même film, je vais m'attirer les foudres de nos auditeurs, mais le même film avec une heure en moins, pour moi, il serait beaucoup mieux. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein, voilà. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale paganisme.
J'aime beaucoup le travail de Ari Aster et d'autant plus sur Midsommar. C'est vrai qu'après la vision de Wicker Tree, on retrouve énormément d'éléments. Un des trucs qui pourrait être reproché à Wicker Tree, mais qu'on ne peut pas reprocher à Midsommar, c'est que Wicker Tree est extrêmement propre, ce qui donne au final, à l'image, un truc assez particulier. C'est clairement pas une suite, même si on voit Christopher Lee apparaître. Et ce qui est assez bizarre, vu que Wicker Tree renvoie en fait à une des comptines qu'on a dans Wicker Man, que les enfants chantent, parce que après l'homme vient l'arbre. C'est aussi une adaptation du bouquin de Robin Hardy lui-même qui s'appelle Cowboy for Christ, et dedans il lui met beaucoup d'humour, ce qui est assez particulier vu que Ritual de Piner, dont on a parlé au début, c'est un bouquin dans lequel on disait qu'il y avait, enfin, il y avait pas mal d'humour, tandis que Wicker Man s'en débarrassait totalement. Alors Midsommar, comme on l'a déjà dit, raconte l'histoire de quatre personnages qui vont dans la communauté d'un quatrième quelque part en Suède. Du coup, on a le personnage de Danny qui a perdu sa famille et qui est en deuil. On a son petit ami Christian qui est doctorant en anthropologie. Son ami John qui est aussi en anthropologie, ainsi que leur dernier ami Marc qui est là pour le tourisme. Et tous ces personnages sont menés par Pelé dans sa communauté. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le film, en effet, on prévoit tout ce qui va se passer, parce que ce qui est dans l'histoire, à mes yeux, le film propose de nous mettre à la place des personnages pour regarder le film en soi. C'est-à-dire, soit on se met à la place de Danny et d'une certaine façon, on suit son évolution, comment finalement elle se remet de ce traumatisme ou non, ou soit on se met à la place de Marc, on regarde le film en tourisme, on regarde juste l'action qui défile sous les yeux, ou alors on se met dans la place de Christian ou de John, et en fait, on décide d'analyser tout ce qui se passe au niveau de la communauté. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dans le film, notamment les immenses fresques qui apparaissent rapidement et qui, en fait, racontent de base tout ce qui va se passer dans le film. Même dès le début du film, la musique qui est lancée s'appelle Prophétie, et en fait, elle annonce tout le reste. Et à partir du moment où on se pose non plus en personne qui suit Danny ou qui se comporte comme Marc et qu'on se met dans la peau des anthropologues, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Que ce soit déjà pour le début sur la scène de suicide qui est ultra intéressant, parce que leur fille, du coup, met le tuyau du pot d'échappement dans la chambre des parents pour les gazer avec la voiture, et elle s'enfonce dans le gosier, le deuxième tuyau. Elle se scotche tout le tour de la bouche pour éviter que le tuyau sorte. On retrouve des traces de vomi sur elle. Et en gros, il y a une des théories qui est le plus relayée, qui est en fait que cette gamine a été tuée pour mettre en détresse mentale Dani, pour qu'elle soit amenée plus facilement dans la communauté. Et du coup, ça fait de Pelé un des meurtriers. Et on retrouve d'autres éléments à travers même le film. Par exemple, il dit que la fête a lieu tous les 90 ans. Et à un moment, dans la grange où tout le monde est réuni, on retrouve des photos des fêtes qui a lieu tous les ans, ce qui va à l'encontre de ce que Pelé a dit. Ou encore mieux, tu as ce moment où on apprend que dans la communauté, enfin, Pelé, pour faire venir Danny, lui explique qu'elle a eu des parents qui les a perdus, que ça l'a marqué et tout. Alors que dans la communauté, on explique que dès l'enfance, on retire l'enfant justement à ses parents pour qu'il soit élevé par la communauté. D'une certaine façon, il ne connaît pas ses parents. Et en fait, à travers ça, tout le film te raconte une toute autre histoire. Tu as dit qu'à un moment, un des personnages pisse et se fait engueuler par la communauté. Et en fait, l'une des histoires que raconte le film, c'est comment une communauté qui a mis en principe des lois extrêmement strictes fait pour maintenir toute la communauté en cohésion. C'est-à-dire que en soi, c'est un peu débile qu'on ne puisse pas pisser alors qu'ils sont entourés de nature. Et en fait, ce détail renvoie également à cette volonté du film. L'une des forces du film aussi, c'est que c'est une antithèse de l'horreur. On rejoint un peu Wicker Man avec le fait qu'on est quand même dans un endroit très ensoleillé, fleuri. À aucun moment, il y a de la pluie. La photographie est époustouflante. Et le fait que tout soit chargé de détails pousse à, comme The Wicker Man, regarder plusieurs fois pour capter l'ensemble des éléments qui peuvent se dérouler devant nos yeux. Parmi les éléments qu'on retrouve et qui est assez étrange, on retrouve également des... Enfin, on a parlé d'Alice au Pays des Merveilles, mais on retrouve également des références au magicien d'Oz, qui est encore plus étrange, par exemple. Quand ils arrivent vers la communauté, le chemin est mené de petites fleurs jaunes, un peu comme Dorothée qui marche sur le chemin... Le chemin en briques jaunes. Et même à la fin, parmi les personnages, on retrouve un personnage qui est transformé en épouvantail, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments qui font référence et qui méritent d'autres visionnages pour essayer d'y comprendre leur intégration.
Après, il y a un truc aussi que tu n'as pas abordé, c'est la notion des 75 ans aussi, qui vient aussi en contradiction avec... Mais bon, tout ce petit jeu-là, on le comprend dans le film tout de suite. Enfin, l'idée que Pelé est peut-être un assassin, tout ça. Enfin, surtout qu'il lui dit, après, dès qu'elle, on comprend qu'il veut qu'elle vienne. Quand elle lui dit qu'elle vient, à un moment, il se retrouve sous les deux. On comprend qu'il veut qu'elle vienne, voilà. Mais le problème, c'est que tout ça, moi, je le vois dans le film. Mais le problème, c'est que je trouve que du coup, c'est trop malin. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le réalisateur est trop malin pour. Enfin, j'ai l'impression que le réalisateur joue trop le malin, en fait. Voilà, que le fait qu'il me serve tout ça, alors il me fait faire une gymnastique intellectuelle, c'est sûr. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu facile, quoi. Enfin. Moi, c'est ça qui me dérange dans le film. J'aurais préféré un truc où il n'y a pas... voilà, où il essaye pas de... Enfin, parce qu'il s'amuse un peu, le réalisateur, quand il fait ça. Et il y a un côté ludique dans le film, réellement. Hein, réellement. Mais moi, pour moi, ben, en gros, il fait le malin, quoi. Voilà. Et ça, du coup, ça me gêne. Moi, ça me gêne. J'aime bien qu'on respecte son spectateur. Je sais pas, tu vois, il y a des cinéastes, ils vont mettre des références. Mais si tu les as pas, c'est pas gênant, tu t'en fous, tu vois. The Wicker Man, il y a plein de références qu'on ne chope pas tout de suite la première fois qu'on le voit, et puis qu'on chope au fur et à mesure des visionnages. Mais je trouve qu'il y a plus d'humilité dans The Wicker Man que dans. Mais après, c'est un point de vue personnel. Par contre, je reconnais à Ari Aster de faire partie des réalisateurs aujourd'hui qu'on a envie de suivre, parce qu'on est toujours quand même, on a toujours envie de voir son prochain film, parce qu'il y a. Il y a quelqu'un derrière la caméra quand même, hein. Il y a un type qui a du talent, mais moi j'aimerais bien qu'il simplifie son cinéma dans le bon sens du terme, quoi. Qu'il devienne un raconteur d'histoire, voilà, qu'il devienne un raconteur d'histoire au lieu d'essayer de se la raconter. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.